Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sécuriser et réguler l'espace numérique, est-ce vraiment encore nécessaire? Si la question peut se poser, en tout cas les députés ont bel et bien voté un projet de loi sous ce doux vocable pour un bel acronyme, le projet de loi SREN. Nous en discuterons avec la Quadrature du Net, Mozilla France et ACT UP Paris. Et ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, Lichess, le site de jeux d'échecs libres, et la troisième partie de la chronique de Vincent Calame sur l'histoire politique des semences. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 7 novembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie pour sa première réalisation en solo, accompagnée d'Élise qui se forme à la régie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et nous Bonne émission.
Merci, et nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par une nouvelle édition de la chronique Pépite Libre. Jean-Christophe Becquet, vice-président et ancien président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre. Texte, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite ou utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Bonjour Jean-Christophe, t'es avec nous ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est à toi Étienne que je dois ma pépite du jour. Je te remercie de me l'avoir signalé et j'en profite pour rappeler aux auditeurs et auditrices de Libre à vous que je suis toujours preneur de nouvelles idées pour cette chronique sur mon adresse mail jcb, comme Jean-Christophe Becquet, apitux.com. Lichess est un site web sous licence libre consacré aux jeux d'échecs. Il a été créé en 2010 par un développeur français, Thibaut Duplessis, et c'est le premier site d'échecs en France et le deuxième le plus fréquenté au monde avec 5 millions de parties jouées par jour. Lichess est une combinaison de live, light, libre et chess. Les échecs. Le site est gratuit et sans publicité ni pistage. Mais Thibaut insiste, la gratuité n'est pas vraiment au cœur du projet. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit du logiciel libre. Ou encore, on n'utilise pas les joueurs d'échecs, ce sont eux qui utilisent Lichess. Cela correspond véritablement au logiciel libre tel que nous le défendons à l'April. Lichess est sous licence libre GNU, Acero General Public License, en raccourci AGPL. Tout le code est libre et tout le monde peut proposer des modifications, corriger des bugs ou apporter des nouvelles fonctionnalités. Lichess recherche aussi de l'aide pour la traduction, le design, la communication. Cette chronique sera ma modeste contribution au projet. Et Lichess ne libère pas que du code. Elle partage également une base de données de parties de jeux d'échecs sous licence libre, Creative Commons, zéro. Thibaut raconte que Lichess a démarré comme un petit projet personnel pour apprendre la programmation. Peu à peu, toute une communauté de joueurs s'est rassemblée autour de ce projet-là et s'est mise à contribuer et créer le projet d'échecs dont ils avaient envie. De nombreux sites d'échecs s'appuient aujourd'hui sur le code de Lichess. Cela fait un peu penser à l'histoire de Linus Torvalds avec le noyau Linux, démarré comme un projet amateur lorsqu'il était étudiant. Le projet Lichess est porté par une association française et le financement est assuré par des dons. Comme pour une adhésion à l'April, faire un don à Lichess n'apporte pas de contrepartie. Il s'agit de soutenir le projet. Les comptes sont publics. L'association supporte une quinzaine de personnes salariées et les coûts liés au fonctionnement des serveurs. Cela représente 1 $ par minute, soit environ 500 000 euros par an. Lichess offre offre donc un environnement complet pour l'apprentissage et la pratique des échecs. Le site est traduit dans presque une centaine de langues. L'ICHEF dénonce aujourd'hui un partenariat signé par la Fédération française des échecs avec la plateforme Immortal Game, une entreprise qui ne partage pas véritablement les valeurs prônées par l'ICHEF.
Merci Jean-Christophe pour cette nouvelle pépite libre, et puis ravi d'avoir pu t'inspirer cette chronique. Alors moi-même, je ne joue pas aux échecs, c'est via Mastodon, je suis tombé un peu sur cette pépite et j'ai trouvé le site inspirant et je me suis dit que ça pourrait te plaire. Donc je vois que j'ai eu raison et j'ai bien fait de te la communiquer. Je vais rappeler effectivement que Libre à vous est une émission contributive et on appelle vraiment les auditeurs et auditrices à nous proposer des sujets et notamment des pépites libres. Vous pouvez nous également donc écrire directement à Jean-Christophe, il vous a donné son adresse, on la rappellera, ou nous écrire un bonjour @april.org et on transmettra à Jean-Christophe. Je te dis un grand merci donc et puis je te souhaite une bonne fin de journée et au mois prochain pour une nouvelle pépite libre.
Absolument et bonne fin d'émission. Et merci à la nouvelle équipe à la régie. Coucou Julie.
Et nous allons passer à faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons avec nos invités d'un projet de loi récemment voté à l'Assemblée nationale pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Avant ça, nous allons écouter Man of Glass par Lemon Knife. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Man of Glass par Lemon Knife, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Notre sujet principal, sécuriser et réguler l'espace numérique, ou SREN. Un projet de loi adopté en juillet au Sénat, avant d'être amendé et adopté le 17 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Encore une énième loi pour contrôler les usages en ligne. J'ai le plaisir de recevoir en studio avec moi pour discuter de ce projet de loi, des représentants et représentantes de trois associations qui se sont mobilisées sur ce texte. Sylvestre Ledru, responsable de la branche française de Mozilla et directeur de l'engineering. Bastien Le Quérec, juriste à la Quadrature du Net. Et Eva Vox, chargée de Playdoh et Act Up Paris sur le travail sexuel, qui va nous rejoindre en studio d'ici une ou deux minutes. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot-clé libre à vous ou par message au compte, directement au compte aprilorg sur poète.april.org. Alors justement, j'entends Eva, voilà, que je vais inviter à nous rejoindre tranquillement. Tout va bien, on vient tout juste de commencer. Donc Eva va s'installer avec nous et puis je vais peut-être proposer à nos invités de se présenter ainsi que les structures qu'elle représente. Justement, en commençant, alors, de manière très simple, par ordre alphabétique, Sylvestre Druy, donc tu es responsable de la branche française de Mozilla.
Tout à fait. Alors je suis à Mozilla depuis 10 ans, je suis un geek et je contribue au logiciel libre depuis presque 20 ans. Je contribue à des projets comme Debian, qui est une version de Linux, une distribution Linux, contribue au projet Rust et à de bon nombreux projets sur mon temps personnel. À Mozilla, j'ai deux rôles. Le premier, c'est que je m'occupe de l'ingénierie pour une partie de Firefox et d'autres projets internes. Et je suis responsable de la branche française, donc ce qui m'amène des fois à discuter et à échanger avec des législateurs. Pour rappel, Mozilla, c'est une structure qui a à peu près 1000 personnes sur la planète salariées. On est dans la plupart des pays occidentaux et notre principal projet le plus connu, c'est Firefox, mais on fait d'autres projets comme Thunderbird, comme un VPN, comme la documentation MDN. Et on intervient autant que faire se peut et quand c'est nécessaire dans le débat public sur des projets de loi à la fois en France, à Bruxelles, aux États-Unis, etc.
Voilà, vous avez pas seulement, vous proposez pas seulement des logiciels, vous développez pas seulement du logiciel, voilà, il y a une communauté derrière et une conviction, une défense du logiciel libre de manière générale.
Tout à fait, on est piloté par une mission qui a été écrite il y a une vingtaine d'années, qui vise à garder Internet libre, accessible à tous, sans restriction. Et c'est pas toujours facile.
Non, il y a beaucoup de travail, bah sinon on serait pas là. Bastien Le Carrec, tu es juriste à la Quadrature du Net.
Bonjour, effectivement, je suis juriste à la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés numériques. On a été créé en 2008, un de nos premiers combats, qui est encore aujourd'hui un de nos combats, c'est la loi Hadopi, qui criminalise le partage en ligne. Dans les premières années de la Quadrature, on s'est beaucoup intéressé aux libertés sur Internet, mais notamment en 2014, à 2015, le virage sécuritaire en France a fait qu'on a un peu étendu nos activités pour s'intéresser aux questions de surveillance, de technologie qui va servir cette surveillance, qu'elle vienne des États, qu'elle vienne des grandes entreprises. Et c'est vrai qu'avec ce projet de loi SREN, on revient un peu à nos premiers amours où on reparle à nouveau de régulation Internet, des plateformes. Et pour nous, c'est un peu un retour aux sources pour remettre sur la table cette question de quel Internet on veut, quel Internet émancipateur on veut. Donc c'est très intéressant de remettre notre nez là-dedans.
Il y a encore beaucoup de travail, effectivement.
Il y a encore beaucoup de travail.
Eva Vox, alors j'espère que je prononce pas mal ton nom.
C'est Eva Vox.
Eva Vox, excuse-moi. Donc tu es chargée de plaidoyer à ACT UP Paris sur le travail sexuel.
Ouais. Du coup, ACT UP Paris est une association de lutte contre le VIH SIDA depuis 1989. Moi, je suis chargée de plaidoyer du coup sur le travail du sexe et aussi par ailleurs actrice pornographique. Je suis dans mon parcours assez sensible en fait aux questions du numérique et à ses régulations parce que ça impacte directement le travail du sexe, quel qu'il soit, enfin qu'il s'agisse de prostitution ou de pornographie.
D'accord, justement, je trouvais très intéressant. Alors, c'est Sébastien qui a suggéré qu'on contacte ACT UP Paris parce que là, on parle d'un projet de loi pour réguler et sécuriser, enfin bon, bref, pour contrôler les usages en ligne. Alors, contacter Mozilla, contacter la Quadrature du Net, ça paraît évident. Et je trouve intéressant aussi d'avoir finalement des associations qui participent à ces luttes, alors que c'est pas leur cœur de métier. Donc, dans notre échange, on va regarder plus concrètement sur quoi vous êtes engagé. Mais voilà, donc toi, tu parles de ton intérêt pour la chose. Est-ce que c'est classique pour ACT UP Paris ou ACT UP en général de s'intéresser à ces projets de loi? C'est spécifique à celui-ci?
Ben, en fait, on a déjà eu par le passé des liens avec la Quadrature du Net. Donc en fait, régulièrement, quand il y a des lois qui contrôlent les corps et les sexualités, ACT UP, oui, s'en préoccupe. Et là, il va y avoir, on en discutera tout à l'heure, mais un impact sur la prévention. Donc oui, en fait, c'est assez classique.
D'accord. Eh bien, je vous propose, comme je disais, voilà, le projet de loi dans le cadre de sa navette parlementaire a été adopté au Sénat, puis à l'Assemblée, et devrait passer en commission mixte paritaire d'ici la fin de l'année. En gros, commission mixte paritaire, elle est composée pour moitié de membres de l'Assemblée, pour moitié de membres du Sénat, et ils doivent discuter entre elles et eux pour trouver un texte de compromis entre les deux chambres, et l'Assemblée nationale aura le dernier mot. A priori, bon, sauf surprise, les deux chambres ont l'air quand même plutôt alignées, c'est souvent le cas sur ces sujets. Enfin, quoique non, je dis ça. En tout cas, sur celui-ci, elles sont plutôt alignées. Par contre, la Commission européenne, peut-être qu'on en reparlera si on a le temps, c'est intéressant, la Commission européenne, elle n'a pas l'air du tout contente de ce qui a été fait en France, on pourra en discuter. Mais je pense que pour commencer, il pourrait être intéressant de comprendre quand même la raison d'être de ce projet de loi, qui a été l'objectif annoncé par le gouvernement, parce qu'on rappelle qu'un projet de loi vient du gouvernement, contrairement aux propositions de loi qui viennent des parlementaires. Qu'est-ce qu'il contient initialement, et puis après il y a eu des évolutions justement du fait par le travail parlementaire, et puis qu'est-ce que ça témoigne globalement comme vision politique de l'espace numérique, puisque c'est le choix qui en a été fait. Alors j'ai envie de me tourner vers la quadrature, bien sûr, tous nos invités auront sans doute des choses à apporter, parce que quadrature, donc tu l'as dit, depuis 2008, vous suivez très consciencieusement tous ces sujets. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet de loi en particulier, puis plus généralement de ce que ça traduit comme vision?
Alors l'objectif de ce projet de loi, c'est de réguler les plateformes. Nous, à la Quadrature du Net, on le dit depuis plusieurs années, on a besoin de réguler les plateformes, on a besoin d'encadrer tout ça, de mieux encadrer. On n'est pas du tout dans le discours le Internet c'est le Far West, faut l'encadrer parce que c'est le Far West, mais par contre, ce qu'on observe, c'est que certaines plateformes abusent de leur position, abusent de leur pouvoir, et donc on a besoin de mettre un peu d'ordre là-dedans pour notamment protéger les plus petits acteurs. Le gouvernement part de ce constat de il faut faire un peu plus de régulation sur Internet, et il s'inscrit dans la continuité de textes européens, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, qui sont deux textes européens qui voulaient un peu toiletter le droit européen autour des plateformes pour augmenter un peu les obligations, notamment sur ces très grandes plateformes. Mais le gouvernement va plus loin. Il va beaucoup plus loin que le DSA et que le DMA, avec une vision qui est également différente. Il a une vision très autoritaire de la chose, une vision très verticale où le gouvernement va imposer ses choix à des acteurs, un peu comme ça pourrait fonctionner avec la télé, sauf que là on est sur Internet justement, et avec une vision très autoritaire et verticale, impose des choix en ignorant totalement les conséquences en matière de droits fondamentaux, les conséquences techniques aussi, comment on met en œuvre ces obligations. Et donc c'est pour ça que nous on a écrit que c'était un texte qui avait une vision très autoritaire, mais également qui ne comprenait pas ce qu'était Internet, ou qui ne veut pas comprendre ce qu'est Internet. Et donc cette manière cette philosophie de ce projet de loi, elle est très importante à avoir en tête, parce que finalement toutes les mesures qui ont été prises dans ce texte, et également celles qui n'ont pas été adoptées, on parlera de la question de l'interopérabilité des réseaux sociaux je crois plus tard, sont vraiment dans cette ligne très autoritaire de réguler Internet en tapant du poing sur la table, et peu importe les conséquences après.
C'est pas forcément une position nouvelle, moi j'ai quand même l'impression que c'est finalement souvent en fait la position qui est adoptée par qui sert de philosophie et de fil conducteur aux plupart des lois dès qu'il s'agit de contrôler les usages en ligne. Tu trouves qu'il y a une spécificité de ce projet de loi?
Non, effectivement, c'est pas surprenant, dans la mesure où depuis de nombreuses années, et particulièrement depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on aligne les textes sécuritaires, on aligne les mesures autoritaires. Donc en ça, c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est d'avoir un texte qui est autant déconnecté de la réalité d'Internet. Autant il y a 15 ans, on pouvait à la limite se dire que le gouvernement ne comprend pas ce qu'est Internet, ne voit pas vraiment les tenants et aboutissants. Autant aujourd'hui, en 2023, avec l'armée de conseillers qu'on retrouve dans les ministères, avec le recul qu'on a, avec les exemples européens et internationaux, malgré tout ça, le gouvernement persiste. Et donc là, on peut, c'est ça qui nous surprend. On voit vraiment quelque chose qui va à rebours de ce qu'est un Internet libre et décentralisé. Et en ça, c'est une forme de surprise, une forme de nouvel élément. C'est une nouvelle forme d'autoritarisme, mais ça reste une nouvelle forme du coup.
Vision partagée par nos autres Sylvestre.
Alors, je serais un peu moins catégorique. Nous, ce qui nous intéressait dans le texte de loi avant tout, c'était le filtre anti-arnaque qui nous a impacté directement. Donc ça, on pourra y revenir plus dans le détail plus tard. On a aussi, on était aussi intéressé dans le débat pour la vérification de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques, parce que ça introduit des techniques, des contraintes techniques. C'est qui on est sur Internet, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on n'est pas un chien derrière un clavier. Donc ces choses-là, c'est quand même des problématiques de fond sur Internet. C'est des débats qui reviennent, on l'a vu en Angleterre, en Louisiane, en Australie, c'est des choses qui sont récurrentes. On s'est impliqué un peu dans le débat d'un point de vue médiatique autour de la l'âge et la vérification de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques. On est un peu dubitatif, qui va collecter les pièces de données, comment est-ce que ça va être sécurisé. Donc c'est une nouvelle boîte de Pandore qu'on ouvre, les tiers de confiance, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on fait confiance à un tiers, donc qui est ce tiers? Donc on a suivi ça, et ensuite à la fin du débat, ou pendant le débat, en fonction de comment est-ce qu'on voit ce qui s'est passé, la vérification de l'âge pour l'accès aux réseaux sociaux, qui nous inquiète, parce que ça voudrait dire que dès qu'on accède au moindre réseau social, les adultes devraient aussi partager leurs pièces d'identité avec des autorités, avec des tiers acteurs qui sont souvent des boîtes privées et souvent aux États-Unis.
Donc il y a beaucoup. Donc c'est les sujets sur lesquels on va revenir plus en détail. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une manière, j'ai l'impression, de projeter des solutions techniques à des problèmes politiques sur des problèmes politiques. Problèmes politiques qui sont pas forcément des problèmes, en tout cas qui sont décrits comme tels, notamment dans ce projet de loi. Souvent on parle de solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette idée que voilà, qu'il y aurait des solutions techniques pour répondre à des problèmes politiques. Est-ce que vous trouvez que ce projet de loi incarne un petit peu cette vision finalement?
Alors, en tant qu'ingénieur, moi j'adorerais qu'on puisse solutionner tous les problèmes sociétaux à base de technologie. Ça ferait que j'aurais un travail jusqu'à la retraite sans aucun problème. Malheureusement, on voit dans nos sociétés que ça passe par l'éducation, ça passe par des associations comme ACT UP, comme La Quadrature, pour répéter qu'il n'y a pas toujours des solutions techniques à des problèmes sociétaux. Ça passe par l'éducation, donc sur l'accès aux sites porno ou au harcèlement, ça passe par l'école, ça passe par les parents. J'aimerais qu'on puisse tout solutionner dans Firefox ou dans les systèmes d'exploitation, dans les seuls concurrents. Malheureusement, c'est pas le cas. On a des problèmes de fond dans nos sociétés qui peuvent être adressés uniquement par l'éducation, par la connaissance et par la bonne volonté.
Eva, tu avais quelque chose?
Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la protection des mineurs, parce que c'est ce qui est agité pour venir censurer l'espace numérique, il y a toujours... Effectivement, quelques années que tous les ans, il y a un nouveau projet de loi, une nouvelle proposition de loi qui traite du sujet. Mais on n'entend pas beaucoup parler d'éducation aux sexualités. Il y a une loi depuis 2001 qui impose à ce que les élèves aient trois séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle et affective. Cette loi, elle n'est pas appliquée. Ça a fait l'objet d'un recours judiciaire des associations SOS Homophobie, SIDAction et le Planning Familial. Et on aimerait en fait que la classe politique se focalise aussi plus là-dessus, plutôt que parce que quand les jeunes se tournent vers Internet pour tombent sur des sites pornographiques, dans les trois quarts du temps, c'est parce qu'ils cherchent de l'information sur la sexualité, parce que dans leur famille, on leur en parle pas, à l'école, on leur en parle pas, et Internet reste un espace de ressources.
Je trouve que ça fait écho à ce que disait peut-être Bastien, cette déconnexion. Il y a d'un côté, on traite du numérique, alors il faut trouver des solutions techniques, point, et en fait, ça croise bien sûr, puisque le numérique est en fait imbriqué dans le reste de nos existences, de nos intimités, de nos interactions. Et je crois que pendant les débats, ça a été par députés de l'opposition, on entendait parfois des échos justement, il y a des lois qui existent, mettez les ressources là finalement si vous avez vraiment à cœur d'adresser ces problématiques. Finalement, effectivement, c'est ce que tu nous décris, cette déconnexion, on invente des solutions là où elles existent déjà, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Parce qu'en plus, des lois existent finalement sans être mises en œuvre.
Oui, du coup, ça donne l'impression que l'intention finalement du législateur, c'est pas forcément de protéger les mineurs, mais de contrôler l'espace en ligne, quoi.
Tu parlais aussi, Bastien, de ce côté très vertical. Moi, ma sensation sur pas que ce projet de loi, mais de manière générale, c'est qu'on cherche aussi, il y a un certain Internet qui existe, construit autour de silos technologiques, hein, de très gros acteurs, Google, Amazon, etc. Et j'ai l'impression que par ces projets de loi, ou aussi par des directives ou des règlements qu'il y a pu avoir en Europe, quelque part, on prend acte, enfin, les gouvernements prennent acte de cette réalité-là, de cet Internet-là, qui serait très vertical, et plutôt que de chercher à développer et à défendre un Internet qui serait au service, voilà, de l'intérêt général, pour dire les choses de manière très, très sobre, on prend acte de cette réalité, de ces silos technologiques, on cherche finalement à en les régulant, à faire comme s'il n'y avait que... Je suis pas forcément très clair, je vais redire autrement. C'est-à-dire que on cherche tellement à les réguler qu'en fait, on écrase parfois et on empêche peut-être d'autres formes d'Internet d'émerger. Voilà, je pense aux réseaux sociaux, on voulait tellement réguler, donc on s'adresse à des énormes plateformes. On fait comme s'il n'y avait que des énormes plateformes et on empêche aussi d'autres initiatives. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette problématique-là, peut-être, avec ce genre de projet de loi.
C'est exactement ça. Et puis même, on pourrait même prendre la question dans l'autre sens, c'est du fait de cette régulation, on a effectivement ces grands acteurs dont l'hégémonie est confirmée, mais également ces régulations sont mises en place parce que ces grands acteurs existent déjà. En matière lutte contre les contenus haineux et à caractère terroriste, c'était la fameuse loi Avia qui a été complètement dépouillée à la fin par le Conseil constitutionnel, mais qui reposait avec... cette loi prévoyait des obligations pour les plateformes de retirer des contenus qui avaient été notifiés par les internautes ou par la police, en une heure pour les contenus à caractère terroriste notifiés par la police, en 24 heures pour les contenus haineux notifiés par les internautes, et le Conseil constitutionnel à la fin a dit c'est une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression parce qu'on peut pas en une heure ou 24 heures savoir ce qui est vraiment à retirer ou pas. Sauf qu'en fait, ce mécanisme-là de notification, de retrait, il a été pensé parce que c'est déjà ce que les grandes plateformes, et à l'époque Twitter et Facebook, disaient être capables de faire. Donc ce type de régulation, il existe aussi parce que on a ces grands acteurs qui affirment pouvoir faire plein de choses. C'est pas forcément vrai en pratique, mais ensuite, ces obligations nouvelles vont vont renforcer leur place dominante. Et je sais pas si Eva, si tu veux parler de tout le lobbying de certains sites pornographiques sur ce projet de loi, mais quand on fait de la vérification d'âge, les plateformes qui pourront faire cette vérification, qui auront les moyens, qui auront développé les outils, pourront continuer à exister. Les autres, hop, on les mettra dehors. Donc il y a aussi cette manière très très verticale de réguler les plateformes qui, tout en s'appuyant sur ces silos, va les renforcer et va faire en sorte qu'on ait encore moins de décentralisation possible, encore moins de petits acteurs qui puissent exister, parce qu'on aura ces choix techniques qui bloqueront absolument tout.
Oui, c'est ça, c'est les gros sites pornographiques ont tout intérêt à mettre en avant la solution technique de la carte bancaire pour pouvoir vendre leur contenu, alors même que Visa et Mastercard discriminent en fait les travailleurs du sexe, et du coup le petit site indé de porno artisanal pourra pas forcément mettre en place ces mêmes solutions techniques. Du coup, enfin, il y a un truc où ouais, on peut pas envisager les mêmes choses pour les gros du numérique et les tout petits, quoi.
Ça renforce non seulement les géants numériques, mais ça renforce aussi des industries qui génèrent finalement ce qu'on parle de problématiques très justes, hein, notamment pour des violences qui seraient exercées sur des femmes et que voilà, qui ressortiraient sur ces sites porno. Je suis pas très clair. Genre, les très gros sites pornographiques sont une très grosse industrie du sexe. Et donc dans ces grosses industries-là, on imagine plus facilement ça va générer des violences potentielles, qu'il y a moins de contrôle aussi sur le consentement des travailleurs et travailleuses du sexe. Là où sur des plus petites plateformes, potentiellement, ça peut être une autre forme de pornographie. C'est pas forcément le sujet et on pourra peut-être y revenir en détail, on en rediscutera. Voilà, je pense que c'est des sujets où il faut être assez précis dans les termes qu'on utilise et je le suis pas forcément. Je vais me tourner aussi vers Sylvestre, où on parle de gros acteurs. Mozilla est à la fois un gros acteur et peut-être pas tant que ça comparé à d'autres. Comment tu perçois, toi, ce débat sur cette question, voilà, de la légifération qui renforce finalement aussi des statuts, des positions dominantes?
Alors, nous, on est convaincus, comme la Quadrature, qu'il faut, il y a besoin de réguler Internet. Si on attend que les acteurs s'autorégulent, on n'y arrivera pas. On a vu la déclaration d'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, il y a quelques mois, au sujet des large language models comme ChatGPT, qui disait laissez faire les experts du domaine, on va se réguler nous-mêmes. On sait que ça fonctionne pas, donc il y a besoin d'avoir le législateur qui intervient dans nos démocraties pour mettre des barrières ou pour faciliter l'arrivée d'entrants. Donc on sait qu'il y a besoin de lois. La question, c'est Comment est-ce que ces lois sont conçues? Avec qui comme expert? On l'a vu dans les débats, dans le texte de loi qui nous a particulièrement intéressé sur le filtre anti-arnaque. Il y a des experts, il y a des députés qui savent de quoi ils parlent. Il y en a certains où c'est un peu moins le cas. Donc, et on le voit aussi à Bruxelles sur certains sujets où il y a quand même un manque d'implication de certains experts dans le débat ou un manque de consultation des experts dans certains débats. Donc, on peut concevoir des lois pour améliorer Internet, mais c'est mieux quand il y a des experts qui sont impliqués quand même.
Alors, tu m'offres une super transition sur un autre aspect de ce sujet, de ce contexte dans lequel s'inscrit ce projet de loi que je voulais évoquer. Et alors, je vais signaler une remarque sur le web chat de Muman qui nous fait remarquer que la loi Avia est revenue aussi par des lois au niveau de l'Union européenne. Donc, tu as, Bastien a évoqué le Digital Services Act et le Digital Markets Act, donc des règlements européens qui visent à réguler les services numériques et les marchés numériques. Pour dire les choses très simplement. Et quelque part, la France, donc c'est des règlements d'application directe, donc il n'y a pas besoin de loi de transposition. Donc finalement, la France a cherché à prendre des devants là où il n'y avait pas forcément lieu de le faire. Sur certaines dispositions, on peut se poser la question, alors tu avais parlé de la loi Avia qui avait des problèmes de constitutionnalité, ici on se retrouve peut-être avec des questions de conventionnalité, il y aura peut-être des dispositions du texte qui seraient qui ne seraient pas conformes au droit européen. On a l'impression que malheureusement c'est quand même assez régulièrement, la France est plutôt abonnée à ça et aime bien s'imaginer locomotive un petit peu de toute la législation européenne. Puis il y a des enjeux politiques et de celle qui va poser un petit peu les bases de comment on va réguler Internet. Et la Commission européenne laisse entendre que voilà, une lettre apparemment assez enflammée a laissé entendre son mécontentement au gouvernement français. Voilà, comment est-ce que vous recevez, comment vous interprétez ça? Qu'est-ce que vous en faites?
Bah, ce qui est assez amusant, c'est que nous, à la Quadrature, depuis juillet, où on a commencé à être actifs sur ce dossier-là, on n'a pas arrêté de dire que cette vérification de l'âge des sites à caractère pornographique, elle est contraire au droit européen, elle pose des problèmes en termes de liberté fondamentale, mais elle est également contraire aux règles sur l'intégration européenne. On n'arrête pas de dire que ça va impliquer une surveillance généralisée des contenus, que comment on fait sur un réseau social pour discriminer les contenus pornographiques où il faut qu'il y ait cette vérification de l'âge, du reste où on n'a pas besoin de faire cette vérification de l'âge, bah c'est tout simplement en analysant tous les contenus automatiquement parce que humainement c'est impossible. Et on a été pris un peu comme des rigolos qui savent pas ce qu'ils disent, qui maîtrisent pas leur sujet. Et finalement la Commission européenne ces derniers mois est venue exactement dire la même chose. La position de la Commission européenne pour l'instant elle est relativement décevante parce qu'elle ne s'intéresse pas aux questions de liberté fondamentale. La Commission européenne n'a pas dit à la France c'est contraire au droit à la vie privée, c'est contraire à la liberté d'expression. En revanche, ce que l'avis circonstancié, qui est le nom technique de ce document qui a été envoyé formellement à la France, ce que cet avis circonstancié dit, c'est que cette régulation des plateformes va créer un îlot en France où on aura des obligations supplémentaires qui n'existent pas dans le reste de l'Union européenne, alors que c'est pas justifié et ça va morceler le marché européen autour des plateformes. Il y a une vision très économique, c'est pour ça qu'on est on est un peu déçu parce qu'on parle d'économie de libre marché et pas de liberté fondamentale, mais au moins la Commission sur ça partage cet avis surtout ce qui nous intéresse c'est que effectivement techniquement la Commission est du même avec nous que ça va créer une obligation de surveillance des contenus qui est très problématique parce que là, pour le coup, indirectement, dans un deuxième temps, ça va avoir des conséquences sur la liberté d'expression, sur la protection des données personnelles, parce que quand on se sait surveiller, on modifie ses comportements, c'est quelque chose de naturel. Et donc, c'est pour ça que la Commission, pour l'instant, a mis le haut là, en menaçant la France si elle persiste dans sa position d'aller plus loin dans les sanctions européennes possibles. Donc, on voit qu'il y a un début de mobilisation de la part de la Commission. Jusqu'où ça ira, on ne sait pas encore. Il y a plein d'actions possibles de la part de la Commission européenne, à voir lesquelles elle prendra. Mais c'est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a peu de textes quand même où la Commission dit aussi frontalement à un État membre et à la France en particulier ce que vous êtes en train de faire, c'est à mettre à la poubelle. Parce que globalement, elle ne laisse pas de porte de sortie à part votre vérification de l'âge, vous la mettez à la poubelle parce que c'est contraire au droit de l'Union.
Donc à suivre effectivement, et finalement ce sera peut-être une des portes de sortie qu'on peut envisager par rapport à certaines parties du texte.
Ouais, mais je me marre un peu parce que, enfin, on peut supposer, ouais, que le texte va se prendre une avia, comme on dit dans le jargon, parce que il y a des dispositions qui sont quand même assez scandaleuses du point de vue de la liberté d'expression, de la liberté aussi de création artistique. Il y a eu un amendement de Francesca Pasquini, qui est une députée écologiste, qui est passée, qui propose d'introduire le même modèle d'action qui est utilisé pour le terrorisme, du coup avec Pharos, pour les images et représentations de viols, de tortures, de barbarie. Et donc là, bon, il y a une bonne partie d'Internet qui s'est dit, mais attention, en fait, ça va censurer une bonne partie de la littérature, du cinéma, etc. On ne peut pas placer le Marquis de Sade sur le même plan que des contenus terroristes. Et pourtant, ils l'ont voté quand même. Le gouvernement s'y opposait, disait attendez, c'est peut-être pas constitutionnel tout ça. Et bon, on peut supposer que ça va être adopté aussi en commission mixte paritaire. Mais derrière, ce genre de disposition, ça va se faire censurer probablement, quoi. Du coup, j'ai proposé qu'on mange des pop-corn à la Quadrature du Net en regardant.
Alors, malheureusement, les commissions mixtes paritaires, sont à huis clos, donc on peut pas savoir ce qui s'y passe, qui d'ailleurs pose pas mal de questions, je trouve, d'un point de vue démocratique. C'est souvent aussi l'occasion de faire le ménage de ce genre de dispositions qui tombent un peu par surprise. Mais ça dit quelque chose, effectivement, que ce genre de dispositions qui, finalement, en quelques minutes, enfin, tu nous l'as décrit très simplement, ça ne tient pas la route. Et en fait, il y a une analyse, pas besoin de la pousser très loin pour le comprendre. Et ça pose question, effectivement, sur comment on construit, finalement, sur des textes qui se veulent pointus. Et c'est peut-être la difficulté. C'est un texte tellement fourre-tout. Et on va rentrer, prendre quelques exemples de dispositions qui sont portées. Mais c'est vrai que ça parlait à la fois de filtre anti-arnac, de contrôle d'âge, enfin, de système de vérification d'âge pour accéder à du contenu pornographique, sur la question de lutte contre le cyberharcèlement, sur aussi réguler aussi c'était pas le point au départ, mais c'est rentré sur la question de la légifération, sur la législation des jeunes, les jeux numériques en ligne, voilà. Enfin, c'est beaucoup de sujets et sans doute trop. Et d'ailleurs, on va, je pense, s'intéresser peut-être plus précisément à prendre des exemples et montrer, voilà, là où vos associations ont pu s'engager. Je pense qu'avant cela, on va s'écouter une pause musicale afin de respirer et de souffler. Je vous propose d'écouter Shadows par Shelby Mary et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Shadows par Shelby Mary, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April avec nos invités Sylvestre Ledru pour Mozilla France, Bastien Lequérec pour La Quadrature du Net et Eva Voche pour Act Up Paris. Nous échangeons sur le projet de loi SRON pour sécuriser et réguler l'espace numérique. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot-clé « Libre à vous » ou par message au compte aprilorg@poet.april.org. Alors nous avons dressé dans la première partie de l'émission voilà, un contexte large dans lequel s'inscrit finalement ce projet de loi SREN, tant politique que juridique. Je vous propose maintenant de nous concentrer peut-être sur des dispositions plus précises qui sont portées dans ce projet de loi et des dispositions sur lesquelles vos associations à différents niveaux ont pu chercher à intervenir et influer. C'est aussi le but de nos associations, notamment à l'APRI, de faire du plaidoyer politique pour essayer d'agir et d'influencer les politiques publiques. Un des projets, on va dire, une des dispositions phares qui a été quand même beaucoup mis en avant dans ce projet de loi et avant même finalement qu'il arrive dans les chambres parlementaires, il en était même question bien avant, c'est sur le filtre anti-arnaque. Alors de quoi s'agit-il et puis on sait, voilà, Mozilla France est beaucoup investi sur ce sujet-là. Je pense que La Quadrature du Net, notamment. Peut-être moi, Top Paris m'a dit Eva, mais n'hésite pas si tu as des réflexions à nous partager. Voilà. Donc, Sylvestre, que peux-tu nous dire sur ce filtre anti-arnaque?
Alors, déjà, on va prendre un peu de recul et expliquer déjà quel est le problème que le gouvernement essaie de corriger avec ça. Donc, la plupart des gens qui nous écoutent ont reçu des SMS. Donc maintenant, on le reçoit moins, mais le CPF, il y a un an ou deux, on recevait tous des SMS sur votre CPF il y a plusieurs fois par semaine. Là, ces derniers mois, c'était Amélie ou les amendes que vous n'avez pas payées. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez un lien et quand vous cliquez sur le lien, on va vous demander de payer. Donc il y a aussi la poste, vous n'avez pas eu votre colis, merci de payer 0,27€ pour obtenir votre colis. Donc vous allez remplir des informations sur le site web de l'attaquant et ces informations-là, elles vont être stockées. Donc souvent, le paiement, il n'est pas fait. Donc par exemple, pour le truc de la poste, les 0,27€, ils ne seront même pas prélevés sur votre carte. Mais ils vont conserver les données. Quelques semaines après, ils vont vous contacter pour vous dire « Ah, il y a une opération frauduleuse qui a été faite sur votre compte à tel endroit. » Et comme ils vont vos informations bancaires, ça vous met en confiance. Et généralement, ils vous demandent d'accepter des paiements qui ont été faits sur Amazon ou sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous subi. Le gouvernement a transmis des chiffres qui me semblent élevés, mais il parle de 8 à 10 millions de personnes impactées pour une perte d'argent pour nos concitoyens d'un demi-milliard ou d'un milliard, dépendant des estimations. On sait que c'était une des promesses de campagne de Emmanuel Macron dans sa deuxième campagne présidentielle, donc le gouvernement a voulu agir. Donc ce qu'ils ont demandé, c'est introduire dans les navigateurs web, donc celui qu'on édite nous, c'est Firefox, les autres, c'est Chrome, Edge ou Safari pour les plus connus, il y en a d'autres comme Brave, Opera, Vivaldi, etc. Le Samsung aussi, Samsung Internet. Donc c'était introduire dans les navigateurs une liste de sites web bannis. C'était ça les conversations initiales qu'on avait eues avec le gouvernement, avec des représentants, etc. Donc on voit bien la boîte de Pandore qu'on ouvre. Initialement, on l'ouvre pour des arnaques, mais on peut très facilement l'ouvrir après pour les ayants droit. Ça, on l'a vu dans les débats à l'Assemblée nationale, pour certains sites pornographiques, etc. Donc on sait qu'à partir du moment où on donne une capacité de blocage, elle va être utilisée à terme pour d'autres.
Quand on dit ayants droit, on parle des personnes qui détiennent des droits droits d'auteur notamment. Voilà,
c'est ça, Adopi par exemple, ce genre de choses-là. Donc on pourrait voir par exemple le filtre anti-arnaque étendu pour bloquer Pirate Bay ou YGG Torrent ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on pourrait voir arriver. Donc ça, c'est un des aspects qui nous a dérangé. Le deuxième aspect, c'est que on fournit cet outil de censure à la France. Donc on peut relativement faire confiance au gouvernement pour pas bloquer l'opposition en utilisant ces mécanismes-là. Mais à partir du moment où la solution technique existe en Occident, on est sûr, et quand je dis on, c'est aussi nos concurrents, on est sûr qu'on va avoir des demandes qu'on a déjà eues dans le passé de certains pays moins démocratiques.
Rien nous dit que nos pays resteront
à un niveau de démocratie aussi,
dans le long terme, même à moyen terme. Oui, donc c'est la question. Et se pose la question de qui établit ces listes et dans de quelle manière, et ça fait partie aussi de...
C'est un des points qui a été soulevé, c'est... comme on a besoin d'agir rapidement pour les arnaques, ça c'est pas quelque chose qu'on conteste, on est d'accord qu'il faut agir rapidement, ça veut dire qu'on peut... il y a une nécessité de réagir rapidement. Si vous regardez les arnaques qui arrivent, le site web il reste en ligne un ou deux jours, donc vous avez besoin d'agir rapidement. Et donc il y a besoin d'avoir des autorités qui sont capables d'agir très rapidement pour injecter ces blocages dans le navigateur. Et souvent, ça contourne les juges. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne m'aventurerai pas à expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais on parlait d'une dizaine d'autorités qui auraient la capacité de maintenir cette liste de sites bloqués.
Alors, initialement, l'idée, c'était vraiment de bloquer. Donc, c'est pour ça que Bozilla, notamment, a lancé une pétition en juin de mémoire. Quel était le propos de cette pétition ?
Alors, la pétition, c'était dire que le navigateur ne doit pas être un outil de censure, qu'un navigateur doit être un outil qui permet d'accéder à la connaissance et à l'information. Donc, on a lancé cette pétition pendant l'été. On a eu 80 000 signatures, ce qui est assez important pour quelque chose d'assez confidentiel et relativement technique. Un journaliste bien technique dans l'informatique et dans le droit français nous a félicité. Il nous a dit, je vais pas dire qui c'est, mais je vais le citer, qui nous a dit « Je suis surpris de voir que les pétitions fonctionnent encore en France. Voilà. » Donc on était satisfaits du résultat. Donc on a échangé avec le législateur, à la fois à Bercy, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, nos inquiétudes ont été entendues. Donc maintenant, dans le projet de loi, s'il passe en l'état, n'importe quel internaute aura toujours la capacité d'accéder à l'information. Et l'autre point, maintenant pour parler plus technique, il y a déjà des mécanismes de blocage qui existent dans les navigateurs depuis une quinzaine d'années. Sur les navigateurs comme Safari, Chrome et Firefox, on utilise une technologie de Google qui s'appelle Safe Browsing, qui bloque déjà des dizaines de millions ou des milliards de sites d'arnaque. Et chez Microsoft, avec Edge, il y a une technologie qui s'appelle Smart Screen qui fait ça aussi. Donc
cet amendement propose non plus de bloquer, mais un filtrage les utilisateurs pourront, les utilisatrices pourront dépasser.
Tout à fait.
J'ai l'impression que la quadrature du net, vous étiez un peu moins satisfait. Je crois que pour vous, Mozilla, ça répondait à vos inquiétudes. Et avec la quadrature, je crois que vous aviez une position plus mitigée sur...
C'est-à-dire que si on a une lecture stricte du texte, la simple différence entre la version du Sénat et maintenant, c'est que effectivement, les internautes pourront au cas par cas dire, en gros, cliquer sur le bouton « je veux quand même accéder à cette ressource ». Il n'empêche que reste dans la loi une possibilité pour une autorité administrative, donc typiquement Pharos, la gendarmerie qui traite ces questions de contenu illicite sur Internet, une autorité administrative pourra toujours enjoindre à des navigateurs de bloquer certains contenus sans que ce blocage puisse être désactivé de manière générale. Après, il y a une question d'application de la loi, c'est peut-être pas comme ça que cette loi va être appliquée, mais si on a une lecture plus stricte, c'est quelque chose d'assez inédit, parce que on a malgré tout cette possibilité d'injonction à des navigateurs, donc enfin des éditeurs de navigateurs, aux organismes qui développent ces navigateurs, de bloquer certaines URL. Ce qui pose aussi problème, effectivement, c'est que non seulement on a cette question de la censure qui est pas entièrement contournable, on peut pas cocher donc dans ses paramètres de son navigateur, si on a une lecture stricte de la loi, tout désactiver, mais également c'est qu'on a une nouvelle forme de censure administrative. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, quand la justice ou une administration veulent bloquer des sites, c'est un blocage qui se fait au niveau du DNS, c'est-à-dire le service qui va faire la résolution du nom de domaine. Mais cette technique de blocage par DNS, elle n'est pas très fine, c'est-à-dire qu'on va bloquer tout le nom de domaine et pas les URL qui après. Donc si on veut bloquer lemonde.fr, si on veut bloquer une URL sur lemonde.fr, on est obligé de bloquer tout lemonde.fr. Au début des années 2010, quand la question de la censure administrative pour les contenus pédopornographiques avait été insérée dans la loi, la question à cette époque, s'était posé de quelle technique on va prendre. Et donc, il y avait cette technique du DNS, mais il y avait également une technique dite du Deep Packet Inspection, qui consiste à regarder tout le contenu sur Internet pour aller regarder cette URL qu'on veut bloquer et ne bloquer que cette URL. Mais ça implique une mesure très intrusive puisqu'on regarde tout le trafic Internet. Aujourd'hui, ce blocage administratif dans les navigateurs répond à cette volonté qu'on avait au début des années 2010 de bloquer de manière très fine les URL sans faire de la surveillance des contenus. Et donc, inévitablement, quand on offre à l'État une nouvelle manière de faire du blocage sur Internet, qui est plus fine, donc avec moins de dégâts, moins d'effets de bord, eh ben, on va inciter ces utilisations. Et donc, évidemment, c'est évident que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va avoir des nouvelles méthodes de censure administrative qui vont s'inspirer de cette censure par navigateur. Aujourd'hui en France, la police peut demander sans passer par un juge le retrait de contenu pédopornographique ou terroriste. C'est évident que d'ici quelques années, le législateur va tirer les conséquences de cette nouvelle possibilité technique et préciser que demain, on pourra s'adresser au navigateur directement pour aller bloquer ces sites. Et c'est cette boîte de Pandore vraiment qui nous inquiète. Au-delà de la question de comment on interprète la loi, comment on l'applique, c'est cette nouvelle technique qui est le résultat de 10 ans de recherche de comment faire de la censure sur Internet qui est en train d'être mise en place.
Partager cette crainte chez Mozilla.
Alors ce qui est clair, c'est que le législateur a compris que la bonne manière de faire du blocage, c'est au niveau du navigateur, et que le blocage par DNS est peu subtil et peu efficace. Attendons de voir comment ça se passe. J'ose espérer qu'on sera impliqué dans l'implémentation technique de la loi. A priori, on va partir sur du Safe Browsing et avec une collaboration plus poussée avec Microsoft et Google là-dessus.
Tu précises que c'est du Safe Browsing, c'est pas mon anglais.
Mais... Pardon, oui, excuse-moi, c'est le mécanisme de le filtre anti-arnaque exigé dans les navigateurs. Donc il y a déjà plusieurs mécaniques qui permettent de bloquer des sites malfaisants, donc à la fois des virus malware et des sites connus d'arnaque. Donc il y a déjà cette technologie-là qui existe. Après, oui, on est attentif à ce qui va se passer ensuite. Personne n'a envie que dans une communauté que les navigateurs servent comme outil de censure. Et on sera très vigilant là-dessus. Donc, juste pour ajouter quelque chose, il y a quand même dans le texte de loi, il y a aussi la volonté de publier toutes les URL qui vont être bloquées justement pour montrer qu'il n'y a pas de censure à l'heure actuelle. Tu l'as dit tout à l'heure, on a un gouvernement à l'heure actuelle démocrate et autant que faire se peut. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même une volonté de transparence sur les sites qui sont bloqués. Après, on est toujours vigilant sur les prochains textes de loi.
Alors, je vois le temps qui avance et je pense qu'on va passer peut-être à une autre thématique. Je voulais juste peut-être voir avec vous, Mozilla. Donc, vous avez fait de la pétition, tu espères donc, que vous allez être contacté pour peut-être la mise en œuvre. Suite à votre pétition, vous avez eu des échanges avec des parlementaires, vous avez discuté sur comment justement...
Alors on a été consulté pendant tout le processus, donc on a été à Bercy, on a été auditionné au Sénat, à l'Assemblée nationale, on a eu des échanges publics et privés avec des législateurs pour échanger sur les bonnes solutions. Il y avait des gens aussi de l'autre côté, on critique le gouvernement, mais il y avait des députés qui savaient de quoi ils parlaient. C'est pas le cas de tous les députés, mais
bon, il y en a qui savent de quoi ils parlent,
et il y en a certains avec qui on peut avoir des arguments et des discussions constructives et arriver à se comprendre. Ouais.
Ils peuvent défendre des idéologies politiques différentes, mais avec une compréhension des enjeux techniques. Voilà, c'est vrai qu'il y en a quand même.
Donc juste pour terminer là-dessus, quand on était auditionné à l'Assemblée nationale, un des arguments clés, on a vraiment vu le changement d'attitude de la part des législateurs, c'est quand on a expliqué que les décisions qu'on prendrait en France rendraient notre vie beaucoup plus compliquée dans des pays beaucoup moins démocrates. Et c'est un des arguments qui a été le plus entendu, de mon point de vue, à l'Assemblée.
D'accord. C'est vrai qu'intuitivement, j'aurais pas eu cette impression, mais tant mieux. On voit bien que tout ça touche à la question de la liberté d'accès à l'information en ligne et de sa corrère, là aussi la liberté de diffusion d'informations en ligne, hein, qui est quand même consubstantielle à la liberté d'expression. Je vous propose du coup de passer aussi à un deuxième sujet, très central également au projet de loi, qui est celui de l'accès au contenu pornographique. Et avec le système de vérification d'âge qui était un peu, je pense, j'ai l'impression, le nerf de la guerre de cette disposition. Il faut mettre un système de vérification d'âge sur les, pour pouvoir accéder à ces contenus. Voilà. Alors Actub, vous êtes mobilisé sur cette thématique, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Eva?
Bah, c'est vrai qu'il y avait déjà eu ces débats en fait sur la vérification d'âge en 2020 avec la loi sur les violences conjugales qui déjà spécifié, enfin le porno, enfin le détacher des contenus violents par exemple, en disant que pour le porno il faut vérifier l'âge des utilisateurs, mais sans proposer de solutions techniques opérantes, et en disant aussi démerdez-vous.
C'est vrai qu'il y a déjà une loi qui le dit qu'il faut vérifier l'âge.
Ouais,
en réalité,
c'est vrai. Donc, mais cette loi-là disait oui, il faut, si jamais on tombe sur du contenu pornographique accessible aux mineurs, le signaler à l'ARCOM. Et l'ARCOM ensuite signale au tribunal judiciaire tout ça. Là, dans la nouvelle loi, du coup, on verra ce qu'il y aura comme loi là-dessus l'année prochaine, quoi, parce que vu que tous les ans ils adorent, ils veulent qu'on se passe de la justice pour que l'ARCOM ait la capacité de faire une censure administrative. Or, la personne qui préside l'ARCOM est quand même nommée par le président de la République, donc ça peut poser un peu ça offre un pouvoir de censure qui est assez assez total, et c'est vrai que pour le moment on est dans un système démocratique, etc. On ne sait pas de quoi demain sera fait. La pornographie en droit, c'est pas quelque chose qui est défini, les décisions de la Cour de cassation sur le sujet, ça dit grosso modo oui, selon les mœurs, l'époque d'une société donnée, etc. On ne sait pas trop ce que c'est le porno, voilà. Il y a pas mal de personnes qui considèrent que juste deux hommes qui s'embrassent, c'est de la pornographie. Si demain il arrive qu'il y ait ce genre de personnes au gouvernement, ça leur donne un pouvoir de blocage en fait de toute représentation des sexualités, voilà. Moi, je trouve ça assez assez dangereux. Et pour les, au niveau des associations de santé, de réduction des risques, on a fait une tribune parce que, contrairement à d'autres acteurs, on n'a pas pu être auditionnés malgré nos demandes. Le volet santé, en fait, n'est pas pris en compte. Et on a fait une tribune pour un peu visibiliser l'impact que ça peut avoir dans des campagnes, en fait, de prévention en ligne, sachant que nos campagnes sont déjà censurées régulièrement par les réseaux sociaux. La dernière campagne d'ACT UP, on avait fait une campagne l'année dernière qui avait été censurée, par exemple, par Facebook. Donc on a peur que ce process-là, ça vienne accentuer une censure qui est déjà existante en ligne, quoi.
Et on voit, ce que c'est vrai que, et c'est un vrai sujet hein, qui est avancé par le gouvernement, c'est préserver effectivement les mineurs du contenu pornographique sans vraiment bien les définir, et on voit déjà toutes les problématiques que ça peut susciter, mais on voit à quel point c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'on ne peut pas autant le réduire. Et finalement, ça n'apporte pas une réponse. Il n'apporte pas une réponse à la complexité, à la globalité de l'enjeu, quoi. Enfin, des questions. Je suis pas très clair.
Si.
Ben, je sais pas si tu veux réagir à cette idée.
Je comprends pas quelle est la question.
Ouais, y a pas. Je vais respirer un coup. Ça revient un petit peu à cette idée que. Plutôt que d'adresser, il y a un effet d'annonce, c'est-à-dire qu'on va mettre un système en place, regardez, on met un système en place, alors que d'ailleurs on ne traite jamais finalement l'entièreté des questions. Mmh. Et effectivement, on va tous être d'accord de la manière qu'évidemment il faut lutter contre le terrorisme, évidemment il faut lutter contre la pédocriminalité, et évidemment qu'il y a un problème, les mineurs, un enfant de 10 ans ne doit pas pouvoir accéder à de la pornographie, c'est pas adapté à son âge, mais il y a des problématiques beaucoup plus complexes, et notamment, comme tu l'as très bien décrit, hein, sur les représentations, comment ça peut être utilisé comme des outils d'oppression contre des personnes qui ont des sexualités qui dévient de la norme, etc. Et on voit notamment dans les débats à quel point ça a du mal à passer, et à quel point on a du mal aussi à ramener cette complexité, je trouve, dans les débats, dès qu'on va parler notamment de technologie numérique, quoi. C'est
Oui, complètement. Enfin, moi, on m'a déjà dit que, en fait, je faisais le lobby des tubes, etc., alors que je défends pas du tout Pornhub. Enfin, c'est des modèles économiques que je défends pas particulièrement, mais juste que les jeunes puissent avoir accès à de l'information concernant les sexualités. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et tant qu'il n'y a pas de solution technique idéale, je comprends pas pourquoi le gouvernement de solution technique idéale, mais aussi libre, en fait, accessible à tout le monde, parce que Internet, ça doit être aussi un espace où tout le monde peut s'exprimer, etc. Enfin, et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des personnes qui veulent juste vendre des solutions techniques, et finalement, c'est des enjeux d'intérêt financier plus que d'intérêt de protection des mineurs, et ça, moi, c'est quelque chose qui me scandalise, quoi. Les gens voient qu'il y a un marché qui s'ouvre au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau international.
Il y a des marchés très conséquents, je pense, on ne se rend pas forcément... Ça m'évoque juste un amendement qui a été défendu, alors je vais l'évoquer ici, parce qu'on est vraiment sur une question de logiciel libre, un amendement qui avait été proposé par les groupes écologistes et LFI pour que ces systèmes de vérification d'âge soient obligatoirement sous un format ouvert et librement utilisable. Ça pose pas forcément de position sur ce qu'on pense de ces systèmes, mais à partir du moment où on les rend obligatoires, ça défendait l'idée que ça devait être au moins du logiciel libre, afin que, en fait, n'importe qui puisse voir comment ils fonctionnent. Alors j'ai trouvé, en fait, la défense assez remarquable de la part de la rapporteure thématique sur cette question. Elle a dit c'est possible et souhaitable, mais nous ne souhaitons pas le faire. Donc voilà, on interprète ça comme on veut, et elle précise en gros que c'est comme de coutume, finalement la liberté d'entreprendre l'emporte sur tout le reste, et en gros qu'il faudra laisser les marchés, dans leur infinie sagesse, se saisir de la question de la transparence des sources. On l'espère, en tout cas, a précisé le rapporteur général Paul Midi, qui vante le logiciel libre, l'open source dans ses mots à lui, mais voilà, en tout cas il faut espérer que le marché s'en saisira. Bref, mais on parle de solution technique. La solution technique visiblement qui est mise en avant est celle du double anonymat. Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, Eva, tu souhaites préciser ce que c'est, ou quelqu'un avec une... Voilà, je te fais signe, parce que c'est vrai que c'est des questions techniques, et parfois ça aide d'avoir un bagage technique plus poussé, moi, que je n'ai pas non plus, donc je comprends tout à fait. Tu as pointé Bastien, donc Bastien, alors voilà, le gouvernement nous parle avec grande confiance de ce système de double anonymat. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le double anonymat, dans ce qu'on a expliqué, c'est que c'est la moins mauvaise solution, mais ça reste une mauvaise solution. Le double anonymat, ça consiste à avoir un tiers de confiance qui va faire tampon entre, d'un côté, un fournisseur d'identité et, de l'autre côté, un site qui a besoin d'une preuve de majorité. Donc, concrètement, ça veut dire que ce tiers de confiance, il va, pour le compte de l'internaute, récupérer l'identité de la personne, donc il aura accès à toutes les informations que peut lui fournir le fournisseur d'identité. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la date de naissance, ou si le fournisseur d'identité est capable, simplement un majeur mineur, et ensuite donner au site en question cette preuve de majorité qui sera signée cryptographiquement pour qu'il n'y ait pas de falsification. Avec ce tiers de confiance, le résultat, c'est que le fournisseur d'identité ne sait pas sur quel site la preuve de majorité va être utilisée, donc il ne sait pas sur quel site porno l'internaute est en train de se connecter, et de l'autre côté, le site en question ne connaît pas l'identité complète de l'internaute, techniquement, on peut même faire en sorte qu'ils ne connaissent pas sa date de naissance. On peut faire en sorte qu'ils ne connaissent simplement que majeur, mineur, un oui, non, et c'est tout. Sauf que quand on a fait ça, ça veut malgré tout dire qu'il y a une authentification derrière, et notamment une authentification avec une identité numérique d'État. Comment on s'assure que l'internaute qui est en train de se connecter est bien Monsieur Paul Dupont, né le 1er janvier 90, eh bien c'est en ayant comme source d'information quelque chose de fiable et que seul l'État aujourd'hui est capable de donner. Donc ça veut dire que avec cette question du double anonymat, on peut faire en sorte de limiter les données, mais on met malgré tout en œuvre un système d'authentification en ligne avant de pouvoir se connecter sur un site. Donc concrètement, ça prendrait la forme, par exemple, d'un bouton France Connect sur Pornhub. C'est aussi concret que ça. Ce qui pose des questions en matière de liberté d'expression, parce que même si le site en question n'a pas accès à l'identité civile, on s'identifie malgré tout. Ça pose des questions de protection des données, parce que plus on met d'intermédiaires, plus il y a des risques risques de fuite, plus il y a des risques d'abus. Et même si ce dispositif était techniquement parfait, ça implique quand même une levée d'anonymat pour accéder à de l'information. La pornographie, peu importe ce qu'on en pense, c'est de l'information et c'est protégé par la liberté d'expression et d'information. Et donc, ça veut dire que avant de pouvoir accéder à une information, on doit montrer patte blanche, montrer son identité, qui est incompatible donc avec le principe d'anonymat en ligne, qui est protégé par le droit, peu importe ce qu'on a pu entendre, il n'existe pas d'anonymat en ligne, il existe que un pseudonymat, comme disait le rapporteur général Paul Midi, c'est faux. La CJUE, la CEDH, donc la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, dans leur jurisprudence, rappellent que le principe sur Internet, c'est l'anonymat. Et ensuite, par exception, on peut lever l'anonymat avec une conservation de l'adresse IP, par exemple, etc.
De toute façon, l'anonymat technique n'existe pas, mais politiquement et juridiquement, on a le droit de cette...
C'est ça. Et donc, quand on met une interface pour se connecter, peu importe la manière technique de le faire, ça veut dire qu'on abandonne ce principe d'anonymat, qui pourtant dans une démocratie est fondamental, parce que derrière, après les sites pornographiques, évidemment que ça va être beaucoup plus loin. Le rapporteur général Paul Midi proposait déjà de faire de la vérification de l'âge avant de s'inscrire sur un réseau social, mais finalement c'est déjà ce que risque de prévoir cette loi avec la question de la peine de bannissement. On y reviendra si on a le temps, mais nous c'est ce qu'on écrit, c'est que techniquement comment on met en œuvre cette peine de bannissement, c'est avec une vérification générale de l'identité. C'est aussi ce que voulait mettre en œuvre le législateur avec la question de la majorité numérique, puisqu'en juillet il y a une proposition de loi qui a été votée pour imposer aux mineurs de montrer patte blanche et de prouver qu'ils ont plus que 15 ans et sinon il faudrait plus de 18 ans et sinon il faudrait l'accord de leurs parents. Donc ça encore, ça implique que tout le monde devra s'identifier avec une identité numérique d'État. Et donc tout ça, on voit que c'est à nouveau une boîte de Pandore, à nouveau la méthode des petits pas. On commence par du porno parce que politiquement c'est compliqué de dire on est anti-porno, qu'on est pas anti-porno, les discussions qu'on a eues à la Quadrature avec certains sénateurs et sénatrices ont été très compliquées là-dessus. Et finalement, après, on sait très bien que ça va être étendu à d'autres situations. Dans le projet de loi, a déjà été rajouté à l'Assemblée nationale la possibilité de faire cette vérification d'identité, éventuellement avec du double anonymat, pour les jeux en ligne qui, aujourd'hui, sont soumis, pareil, à cette obligation cette interdiction pour les mineurs de faire des jeux en ligne. Et là encore, on est en train de ouvrir la voie à une vérification à travers des identités numériques d'État de la majorité des internautes.
Je vois que le temps avance. Oui,
remarque parce que c'est déjà le cas au sujet des réseaux sociaux, parce que sur certains réseaux sociaux comme le réseau social X, on peut trouver de la pornographie, donc en soi c'est un site pornographique, donc il pourrait imposer ce truc de France Connect sur
parce que les dans les débats, on voyait même sur Le Bon Coin, etc., finalement on pourrait très bien imaginer des BD érotiques ou pornographiques, etc. Qu'est-ce que la pornographie, en fait tu le disais, c'est finalement assez mal défini, c'est flou comme notion, donc on voit comment ça peut effectivement impacter énormément de sites et de plateformes.
Ben là, ça voudrait dire sur Twitter, soit ils mettent une solution technique pour filtrer les utilisateurs en fonction de leur âge, soit ils géraient tous les contenus pornographiques et les acteurs porno, les travailleurs du sexe, voilà.
J'ai besoin d'une précision qui nous vient du webchat. La Quadrature du Net, c'est des libertaires, faut pas les écouter, a dit une députée à cet auditeur. Voilà, donc ça montre aussi une certaine vision des oppositions politiques aussi. Avant qu'on avance, est-ce que tu souhaitais réagir sur ce sujet
quand on intervient sur des débats, on essaye d'avoir des solutions techniques et on n'avait pas particulièrement de solutions techniques à proposer sur là-dessus. On a suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Le tiers de confiance, bravo pour ta présentation de la solution technique, c'était très clair. Juste ajouter que tiers de confiance, ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelqu'un au milieu et que cette personne-là aura accès à tout. Donc c'est-à-dire est-ce que Étienne a été sur tel site web, etc. Et vu que le seul cas d'utilisation à l'heure actuelle, c'est le porno, ça va être une belle base de données pour les attaqueurs. D'accord.
Alors, je l'ai mal posé, mais c'est vrai que la pause musicale parle de What We Do in the Shadows, qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre, et en fait, on a tous le droit aussi de défendre et à cette intimité, ces choses qu'on fait avec l'anonymat, c'est aussi. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de cette phrase, j'ai rien à cacher. En fait, on a tous, c'est pas qu'on a des choses à cacher, mais on a différents niveaux d'intimité qu'on va partager à différentes personnes, et c'est un droit assez essentiel de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, de pouvoir un peu gérer quand même correctement. On a le droit de cacher des choses, en fait. C'est pas qu'on n'a rien à cacher, mais on a le droit de cacher des choses. Et ben, je vous propose d'avancer, juste préciser peut-être, c'est pas essentiel comme information, mais que cette l'ARCOM, parce que ça a été mentionné, doit mettre, alors je crois qu'ils ont un ou deux mois de mémoire pour proposer un référentiel technique pour ce système de vérification d'âge. On verra ce qu'il en sort. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'avancer sur le dernier sujet que je vous proposais d'évoquer, qui concerne pour le coup une des propositions. Ça fait quelques années maintenant que vous défendez cette obligation d'interopérabilité pour les plateformes. Alors là, qui intervient sur ce texte, il me semble surtout sur la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Une des solutions proposées, malheureusement, on va dire, il y a une peine de bannissement qui pose énormément de problèmes, et tu pourras le mentionner, Bastien. Peut-être voilà, nous présenter un petit peu ce qu'est cette obligation d'interopérabilité, avec la difficile tâche d'expliquer en des mots simples ce qu'est l'interopérabilité. Et on y nous reste à peu près 5 minutes. Donc voilà, je te propose un beau challenge, enfin un beau défi, Bastien.
Ok, très bien, merci. Alors, l'interopérabilité des réseaux sociaux, ça consiste à casser le monopole qu'ont aujourd'hui les grandes plateformes sur leur communauté. Aujourd'hui, quand on est sur Twitter, disons, on ne peut pas communiquer avec des gens qui sont sur Mastodon. On est obligé d'avoir un compte sur chaque plateforme si on veut communiquer sur ces plateformes. Ce qui fait que pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes rechignent à partir de Twitter alors même que c'est une plateforme qui est de plus en plus documentée comme étant toxique, parce qu'il y a cet effet de communauté qui fait qu'on n'a pas envie d'abandonner ces centaines ou milliers de followers, que ça crée une communauté, ça peut créer donc de la richesse dans les échanges. L'interopérabilité des réseaux sociaux, elle consiste justement à un internaute ou une internaute sur une plateforme A, un réseau social A, de pouvoir communiquer sans avoir de compte, de pouvoir communiquer avec des internautes sur une plateforme B sans avoir de compte sur cette deuxième plateforme. C'est un peu similaire au courrier électronique où on peut héberger ses mails chez soi et on n'a pas besoin d'avoir de compte chez Google pour écrire des mails aux gens qui ont leur adresse mail en gmail.com. Pourtant, avec les réseaux sociaux, c'est pas le cas. Mastodon, c'est un réseau social interopérable, c'est-à-dire que sur l'instance de l'April, quand on a son adresse chez l'April, on peut communiquer avec des gens qui ont leur compte de réseau social chez La Quadrature, puisque La Quadrature du Net héberge une instance Mastodon, mamode.fr. Aujourd'hui, il n'existe pas d'obligation pour les réseaux sociaux commerciaux d'être interopérables. Donc si Twitter veut se refermer sur lui-même et empêcher les gens de pouvoir communiquer avec des internautes à l'extérieur de sa plateforme, rien ne l'en empêche. C'est là où l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux entre en jeu. C'est ce qu'on a proposé dans ce projet de loi SREN, c'est-à-dire obliger certaines plateformes à partir d'une certaine taille, parce qu'on veut pas non plus pénaliser les petits émergents, à être obligatoirement interopérables. Donc ça aurait eu pour conséquence d'obliger Facebook, par exemple, à être interopérable, et donc on aurait pu, depuis son compte Mastodon, discuter avec des gens qui sont sur Facebook. Évidemment, il y a aussi des questions de régulation, il faut pas que Facebook impose ses choix techniques, impose sa modération, mais donc on avait proposé, nous, dans ce projet de loi, des amendements pour créer cette obligation et confier à l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, le soin de faire l'arbitrage et mettre un peu d'ordre là-dedans. Ces amendements, qui avaient été proposés par le MoDem, par LFI et par les Verts, ont été rejetés par l'Assemblée nationale, et finalement ça montre bien cet état d'esprit de ce projet de loi, parce que finalement l'interopérabilité des réseaux sociaux, ça veut dire décentraliser Internet, ça veut dire permettre l'émergence de petits acteurs, ça veut dire que ces géants du numérique auront moins de pouvoir, et c'est précisément l'inverse que ce que veut faire le gouvernement. Et finalement c'était pas une surprise que le rapporteur général et le gouvernement soient contre ces amendements, alors même que même au centre ces problématiques étaient comprises et sous soutenu à travers ces amendements. Et donc, dans le projet de loi SRN n'a pas été introduite l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux. Ça sera pour une prochaine fois. On est persuadé que c'est dans ce sens-là que doit évoluer Internet et que la régulation des plateformes en ligne doit passer par plus de décentralisation, notamment avec cette obligation d'interopérabilité.
Moi, je suis impressionné par un tel esprit de synthèse. Vraiment, bravo. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Je précise à la régie qu'on va pas faire la dernière pause pour pouvoir mettre à chacun, à chacune de nos invités d'avoir le temps d'au moins une minute de temps conclusif. Voilà, mais effectivement, l'interopérabilité comme élément de réponse structurelle, on voit que c'est des questions complexes. Je crois que Facebook voulait se saisir du protocole ouvert ActivityPub. Alors, ça soulevait beaucoup de questions aussi, mais c'est des questions intéressantes, c'est sur lesquelles, voilà, il faut aussi prendre à bras le corps. Je vous dis, voilà, on arrive sur la fin de l'émission. C'est vrai que le sujet a été très vaste. En fait, on aurait pu passer deux fois plus de temps. Mais si vous aimeriez que les personnes qui nous écoutent retiennent une ou deux idées fortes de cet échange, quels sont pour vous, voilà, les points essentiels à retenir? Question difficile, je sais, encore une fois. Sylvestre, tu as ma voix.
De mon point de vue, c'est que il faut être vigilant sur les textes de loi. Donc là, je l'ai pu le voir en tant qu'expert dans le numérique, qu'il faut toujours avoir un bon degré de compréhension pour maîtriser le sujet et pour pouvoir faire des évolutions dans les textes de loi qui soient appropriés et d'avoir des gens qui sont capables de comprendre et fournir des différents points de vue, donc comme la Quadrature, comme nous et comme d'autres acteurs avec qui on a travaillé. Donc il faut être toujours vigilant sur les nouvelles textes de loi et pas légiférer avec des analogies simples comme on a pu l'entendre sur le Far West et sur d'autres analogies. Donc souvent, Internet est quand même un sujet compliqué qui demande de passer du temps, d'échanger et de discuter, donc se renseigner.
Très beau conseil, Eva.
Moi, c'est juste quand dans les lois, on va parler de pornographie, ne pas se dire que ça concerne que le secteur de l'industrie pornographique, mais de se sentir en fait concerné parce que ça concerne l'ensemble de la société. Et là, ça va toucher la liberté d'expression potentiellement de tout le monde.
Bastien ?
Je dirais que on a besoin de penser le numérique au-delà des questions technologiques. C'est pour ça qu'à la Quadrature du Net, on a fait très attention à écouter les autres acteurs, à écouter Mozilla, on a discuté avec eux, à écouter ACT UP, on a publié des articles en commun, des tribunes en commun, parce que on ne peut pas penser le numérique uniquement d'un point de vue liberté fondamentale, vie privée, liberté d'expression, tel que ces sujets sont classiquement abordés à la Quadrature, mais aussi d'un point de vue éducation, d'un point de vue éducation populaire, d'un point de vue impact pour ces personnes-là. On a besoin de faire des ponts et c'est comme ça qu'on aura une bonne régulation du numérique.
Ça revient exactement à ce que disait Eva. Finalement, on n'est pas contre les problèmes de régulation, on fait réguler, mais il faut prendre l'entièreté en fait des problèmes, et c'est aussi des questions de santé publique, etc. Et on ne peut pas se contenter d'avoir cette focale que malheureusement semble avoir ce texte. En tout cas, un très grand merci à vous trois, donc Bastien Lecarec pour la Quadrature du Net, Eva Voche pour ACT UP Paris et Sylvestre Ledru pour Mozilla France. Et je vous propose directement de passer à notre dernier sujet, et je vais inviter Vincent, qui nous attend de l'autre côté du studio, à venir nous rejoindre. Alors, on aurait pu écouter, mais on l'a déjà diffusé, mais je vous invite, moi, c'est un morceau que j'adore écouter, qui est Arcane par Cloud Kicker, que vous retrouvez effectivement assez facilement sur le site libreavoue.org, Arcane, A-R-C-A-N-E, que je vous invite vivement à écouter. Et voilà, Vincent a pu s'installer tranquillement, et Vincent, nous t'écoutons pour une nouvelle chronique de tes lectures buissonnières, la troisième partie, il me semble, sur Semence, une histoire politique.
Oui, tout à fait, je continue sur le Semence. Alors... Donc je ne crois pas qu'il existe dans le monde des semences un équivalent en quatre libertés qui régissent le logiciel libre. Mais si cet équivalent existait, je gage qu'une des premières libertés énoncées serait celle de ressemer d'une année sur l'autre les produits de sa récolte, ce qu'on appelle les semences de ferme. Alors, nous avons vu à l'épisode précédent, si nous sommes à la partie 3, que le catalogue des variétés cultivées mises en place à la sortie de la guerre avait fortement encadré la commercialisation des semences, mais il n'avait pas interdit les semences de ferme. Le régime, appelé Certificat d'Obtention Végétale, COV, établi en 1961, est toujours actif, excluait notamment tout brevet sur les variétés, autorisant les semences de ferme tout en les soumettant, depuis les années 90, à un paiement de royalties. Donc un premier coin dans cette liberté de ressemer va être enfoncé par la diffusion des variétés hybrides, dites variétés hybrides F1. Alors leur principe est simple, un peu de biologie, on prend deux lignées pures avec des caractéristiques bien identifiées, en les croisant on obtient des semences très performantes, ce qu'on appelle la vigueur hybride ou Ethesaurosis, mais dont la performance ne dure qu'une génération. De là le F1. La génération suivante étant frappée par un phénomène appelé dépression de consanguinité. Alors là, pas besoin de longue année d'études en biologie pour savoir que la consanguinité, ce n'est pas bon génétiquement parlant.
On a donc créé des semences spécialement pour que leur reproduction soit sans intérêt?
Oui, oui, tout à fait. Mais bon, pour reprendre la formule des auteurs de l'ouvrage, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot contre les semences de ferme. Le grand intérêt des hybrides F1 est de produire une semence performante et standardisée, tout à fait adaptée à l'industrialisation de l'agriculture. Pour les obtenteurs de variétés, la dépression de consanguinité est un plus qui assure des profits constants, ce qui, n'en doutons pas, a pesé dans la balance. Toujours est-il que ce type de variété s'est fortement développé, même pour les plantes dont le mode de reproduction n'est pas adapté. L'autre particularité de ces hybrides F1, c'est que leur production demande une forte technicité et une organisation pointue des filières, ce qui favorise les concentrations capitalistiques. En France, les années 70 ont vu la montée en puissance des grands groupes privés, diminuant fortement le poids de la recherche publique. Au niveau international, on voit également des rachats de semenciers par des grands groupes de l'agrochimie. Semences, pesticides et engrais deviennent un tout, un paquet vendu ensemble aux agriculteurs, ce qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas en influence sur les directions prises par la sélection variétale. Mais la vraie révolution reste à venir. C'est celle des biotechnologies qui explosent littéralement au cours des années 1980. C'est dû bien sûr aux avancées scientifiques et biotechnologiques, mais aussi, voire peut-être surtout, à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser le brevetage d'un organisme génétiquement modifié. Alors c'est l'arrêt Diamond versus Chakrabarty de 1980, dont vous retrouverez la référence sur le site. La variété n'était pas brevetable, le gène l'est et ça change tout. Le droit de la propriété intellectuelle fait une entrée fracassante dans le domaine des semences. Les techniques de décryptage du génome qui se développent au cours de l'année 90 multiplient les possibilités de déposer les brevets. C'est une véritable bulle qui multiplie les promesses, asséchant au passage les autres voies de recherche dans la sélection variétale. Mais de fait, en matière d'organismes génétiquement modifiés, c'est surtout ceux résistants aux pesticides qui sont développés par l'industrie agrochimique. Alors, donc ça aboutit à la fameuse controverse des OGM à la fin des années 90. Alors, pour celles et ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu José Bové en train de faucher un champ, on peut comparer l'ampleur médiatique du débat à l'époque à celui autour des mesures sanitaires à prendre contre le Covid au moment du confinement. Alors, il n'est pas courant qu'un débat scientifique déborde sur la place publique. Ce fut un de ces moments-là. Je ne vais sûrement pas m'étendre sur les arguments des uns et des autres, c'est pas le sujet. Si ça aboutit à des moratoires en Europe, brevets et licences ont continué à proliférer. Cela complique évidemment la recherche, car pour développer une nouvelle variété, il faut s'assurer qu'on n'enfreint aucun brevet existant. Et surtout, l'étau se resserre autour du droit des agriculteurs à ressemer leurs graines, car il devient de plus en plus difficile de tracer un gène et donc d'assigner en justice un agriculteur pour contrefaçon. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien, se voit ainsi condamné par Monsanto pour avoir cultivé du colza contaminé accidentellement par le colza transgénique d'un fermier voisin. On voit ainsi comment liberté fondamentale s'est réduite progressivement au cours des décennies. Alors là, là encore, je ne vais pas faire de complotisme, hein, il ne s'agit pas d'un plan ourdi depuis de longue date par des intérêts cachés dans l'ombre, enfin bon, qui sait quand même, mais plutôt d'un grignotage continuel. Pris séparément, aucun des dispositifs promus à des époques différentes par des acteurs différents n'interdit formellement de ressemer des semences. Jamais, heureusement, un législateur ne promulguera une loi l'interdisant. Mais c'est l'agglomération de ces dispositifs qui aboutit à ce résultat. Un effet cocktail, redoutable en quelque sorte. Ça m'a fait penser à la campagne de l'April contre les quatre dangers qui menacent le logiciel libre. Pris séparément, aucun de ces dangers ne semble mortel. Par exemple, si les documents ou des DRM, je les ignore simplement, ça ne gêne pas dans mon utilisation quotidienne du logiciel libre. C'est conjugué ensemble qu'ils multiplient les freins et peuvent donner naissance à une situation où, si en droit, rien ne m'interdit d'utiliser du logiciel libre, en pratique, je me retrouve acculé à l'utiliser du logiciel privateur, tout comme nombre d'agriculteurs se sont trouvés acculés à être totalement dépendants du système agro-industriel. Voilà. Alors, pour conclure cette exploration de la question des semences, je vous propose de terminer par une dernière partie beaucoup plus optimiste, ce que les auteurs de l'ouvrage ont appelé les chemins buissonniers de l'innovation variétale. Ça nous permettra de partir à la rencontre d'un monde militant foisonnant, comme celui du logiciel libre. Mais ce sera pour la prochaine chronique.
Super. super, merci beaucoup Vincent. Donc je te dis au mois prochain pour le dernier épisode de cette quadrilogie sur Semence, une histoire politique.
Exactement.
Parfait. Et bien je te souhaite une bonne fin de journée et nous approchons donc de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons notre apéro mensuel du mois de novembre, non pas un vendredi, mais un samedi soir. Rendez-vous donc au local de l'April, situé dans le 14e arrondissement de Paris, samedi 11 novembre, à partir de 19h. Ces apéros sont ouverts à toute personne intéressée par le logiciel libre. Pas besoin d'être membre, alors n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Le Capitole du Libre, événement majeur du logiciel libre, arrive à grands pas. Pour tous les publics, ce week-end consacré au logiciel libre, les 19 et 20 novembre à Toulouse, propose un grand nombre d'ateliers et de conférences, ainsi que des stands pour découvrir les foisonnantes communautés du libre. L'April y tiendra bien sûr un stand, et Bouquinette, présidente de l'association, proposera deux conférences, notamment une sur les actions de l'April. Le programme est d'ores et déjà disponible en ligne. Je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations locales qui la font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Jean-Christophe Becquet, Bastien Lequérec, Eva Voche, Sylvain Estre-Ledru, Vincent Calame. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chaumard pour une première régie en solo. Félicitations Julie, c'était nickel. Accompagnée d'Élise en formation. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudin, Languin, Julia Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcast complet, des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibault bénévole à l'April et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 novembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap, le projet libre et collaboratif de cartographie en ligne. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14 novembre et d'ici là, portez-vous bien.